Vous êtes à l'écoute de Radium 89.7 sur la FM. Bonjour, bienvenue dans l'émission La Boîte à Musée, réalisée par RL Pinel avec le concours d'Ahmed Azouz et Thierry Tucriel. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'espace photographique Arthur Batut à La Bruyère. Vous allez entendre les voix de Serge Nègre, fondateur du musée qui réalise la visite guidée, et de Didier Arquier, président de l'association.
Bon, bonjour, je m'appelle Serge Nègre, je suis photographe, infirmier libéral. J'ai participé aux expéditions du docteur Jean-Louis Etienne pendant une quinzaine d'années, etc., etc. Bon, on ne va pas détailler ma vie. Je suis à l'origine de la création du musée Arthur Batut en 1988, plutôt à partir de 1985, mais l'ouverture officielle s'est faite le 1er juillet 1988 pour le centenaire de la première photographie aérienne par cerf-volant, bien entendu. Alors, en 1985, la ville de La Bruyère fêtait son millénaire. Donc, dès 1984, on a eu le projet, avec mon épouse, de faire un livre sur La Bruyère, bien sûr. Non pas avec des photos qui avaient 1000 ans, parce que ça n'existait pas, mais en tout cas avec des photos du 19e siècle, ou en tout cas ce qu'on pouvait trouver. On avait déjà une collection personnelle de photographies faites par des photographes locaux autour de la ville. Et de photographies du 19e, très intéressantes, des photographies d'ethnographie, des photographies sociales, des gens au travail, au marché, des images intéressantes, des portraits. Et puis on savait qu'Arthur Batut avait fait sa photo par cerf-volant, tout le monde sait ça à La Bruyère, tout le monde sait ça un peu partout. Après 6 mois de recherche, on a retrouvé la famille qui nous a dit: nous avons quasiment gardé tout le matériel d'Arthur Batut, toutes ces images, venez donc dimanche boire le café, on vous montrera quelques photos. Donc il nous fallait une dizaine de photos pour notre ouvrage, c'était parfait. Et on est arrivé devant une mine d'or de près de 20 000 images, donc largement plus que ce qu'il nous fallait. Les appareils photo d'Arthur Batut, les plaques, son cerf-volant, enfin, tout le matériel, sa riche bibliothèque et tout. Donc ça a été le point de départ de notre rencontre avec Arthur Batut, et avec lequel nous avons passé maintenant près d'une trentaine d'années. Outre les photographies, les plaques de verre, le matériel, il y avait du courrier, beaucoup de courrier, le brouillon de lettres qu'il faisait, qu'il envoyait, le brouillon de ses réponses au courrier qu'il recevait, ce qui nous a permis, mon épouse et moi surtout, de faire le tour de la personnalité de ce personnage, donc, et de véritablement arriver à le connaître comme si c'était un ami de longue date, alors qu'il est mort des dizaines d'années avant ma propre naissance. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'espace photographique Arthur Batut. Donc Arthur Batut est né en 1846, à Castres donc, mais il a passé la majorité de sa vie à La Bruyère, puisque très jeune, il a hérité de la maison de sa grand-mère à La Bruyère, donc dans le domaine dans l'or. Et donc lui, il faisait quoi? Il gérait sa propriété, il gérait ses ventes, ses factures, il faisait les factures, il avait donc beaucoup de temps libre qui lui permettait de s'adonner à quoi d'autre? Ben, à la photographie, puisqu'il est né quasiment en même temps que la photographie. La photographie est née officiellement en 1839, c'est l'année où Arago a fait une déclaration à l'Académie des sciences, et où le gouvernement français a dit ben, c'est une invention qui n'a pas de brevet, qui n'aura pas de brevet, et qui est donnée au monde. La France a donné la photographie au monde. Il n'y a jamais eu de brevet sur la photographie. Vous pouvez construire des appareils photographiques, vous n'avez de permission à demander à personne, à condition de ne pas copier quelque chose qui existe déjà, bien entendu. Et donc c'est une invention qui a très vite pas supplanté la peinture du tout. C'est ce que s'était crié le peintre Delaroche à l'époque, qui a dit ben, à dater de ce jour, la peinture est morte. Et ben, tu te dis non, non, pas du tout, la peinture n'est pas morte, elle va servir au contraire la photographie à rendre plus réaliste la peinture, ou bien à s'en départager, en s'en éloignant. Et on connaît ensuite ce qui est arrivé peu après le début de la photographie, l'impressionnisme, le cubisme, etc. Et toute la photographie qui a découlé, qui serait peut-être apparue si la photographie n'avait pas existé, mais en tout cas qui n'a pas été gênée par la photographie et qui même a été peut-être poussée, la peinture a été peut-être poussée au-delà de la simple réalité que l'on représentait et à cause de la photographie. Réalité représentée par la photographie, est-ce que la photographie représente la réalité? C'est une grande question. En fait, la photographie ne représente pas la réalité. Ça, c'est une photographie. Et vous la verrez de près, vous allez voir que ce n'est pas une réalité puisque c'est quelqu'un qui n'existe pas. Et pourtant, vous avez bien un visage. Donc la photographie ne représente pas la réalité. Mais bien avant l'informatique, c'était déjà vrai. On a utilisé en politique, en Union soviétique, aux États-Unis, dans le domaine de la religion, etc. On a trouvé des tas d'images où des gens ont disparu, ont apparu d'une année à l'autre. Donc la photographie ne représente pas la réalité, mais on peut dire qu'elle représente une réalité. Celle de l'instant de prise de vue, celle de l'humeur du photographe, puisque la photographie, je vous rappelle l'étymologie du mot photographie, pour ceux qui ont fait du grec, et même ceux qui n'en ont pas fait, vous connaissez les deux mots. Pardon. Photo, c'est la lumière, bien, photos, c'est la lumière, et graphein, c'est écrire, la graphologie, tout le monde a entendu parler de graphologie. Donc la photographie est l'art d'écrire avec la lumière. C'est plus un crayon, c'est un appareil photographique. C'est grâce à l'argent qui s'oxyde et qui devient noir à la lumière. La photographie, c'est rien d'autre. Hein. C'est de l'argent qui devient noir à la lumière. Voilà, on va passer dans la partie muséographique proprement dite, à moins que vous ayez des questions déjà sur lesquelles vous souhaitez revenir. Là, j'ai fait une petite introduction un peu générale et on va passer proprement à la partie muséographique avec le travail d'Arthur Bain. C'est par ici. Bon, il s'agit dans cette vitrine de Physionotrace. Le Physionotrace, ce n'est pas de la photographie. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait ici? Ben, ça fait ici que c'est né au moment de la Révolution française, juste avant, en 1785. Ce sont des gravures, toujours de profil, parce que ce qui est caractéristique d'une personne, c'est le profil. Très très fin, si vous la regardez de près, vous allez voir, c'est des traits d'une finesse extraordinaire, c'est fait au microscope, de façon à avoir une image parfaitement ressemblante avec la personne. Mais donc c'est un premier moyen, le Physionotrace, c'est le premier moyen de distribuer des portraits en grande diffusion, en grande série. Alors on a ensuite la vraie photographie, 1839, les premiers travaux de Niépce, c'est 1822. Le problème de la photographie, on s'est très vite rendu compte que la lumière qui va écrire, puisque c'est la photographie, c'est donc les objets sont photosensibles, tout est photosensible. Un parquet où il y a une armoire pendant des années, quand on enlève l'armoire, la couleur du plancher dessous n'est pas la même. C'est pas simplement parce que vous n'avez pas fait le ménage, hein, c'est simplement parce que la lumière a un effet dessus.
C'est une bonne excuse en tout cas.
Et c'est une bonne excuse, mais ça ne serait pas régulier comme ça. Cette photosensibilité va être découverte très tôt, mais on ne sait pas le fixer. Sur le plancher, elle se fixe très bien par contre. C'est même très difficile à faire partir. Et donc Niépce va réussir à fixer, à faire des images, mais on n'arrive pas à les fixer. Et on est arrivé après à les fixer par des procédés chimiques un peu compliqués et tout. Daguerre est arrivé à fixer une image. Vous avez tous entendu parler des daguerréotypes. Le problème de Daguerre, c'est que son image va être sur une plaque d'argent, tout simplement. Après, on s'est aperçu que ce n'était pas la peine de faire une plaque d'argent. Il suffisait que l'argent soit en surface. Donc, on prenait une plaque de cuivre qu'on argentait. Déjà, l'épaisseur était bien moindre et ça coûtait bien moins cher. Et cette plaque qui est à l'intérieur de l'appareil photo, de la chambre noire, puisque l'appareil photo, c'est une chambre noire, inutile de démonter l'appareil photo, il n'y a rien à voir dedans. C'est vide. Il y a un objectif devant qui peut être intéressant et derrière le support de la plaque. C'est tout. Il n'y a rien dedans dans un appareil photo. C'est une chambre noire, on pourrait l'appeler une chambre vide d'ailleurs, vide et noire. Et donc cette image va se former sur cet argent, il va le développer et il va trouver un moyen de le fixer aux vapeurs de diode et de mercure, donc qu'il faut chauffer. Donc je vous dis pas, c'est très très dangereux, il faut surtout pas respirer ça. Et c'est l'image qui était à l'intérieur de la chambre qui va devenir positive selon l'angle dont on la regarde. Vous regarderez tout à l'heure, on ne voit pas la même image. Parfois, c'est l'argent qui se reflète, on ne voit pas l'image du tout.
Le problème, c'est que c'est une image unique. On ne peut pas en faire plusieurs. On a une image photographique, c'est vraiment une image photographique, d'une très très grande finesse. Si on a un bon objectif, l'image est magnifique, vraiment magnifique. C'est très difficile à conserver, ça doit être à l'abri de l'air, à l'abri de la lumière. Et c'est pour cette raison qu'elles sont toujours enchâssées entre un verre et un support plus ou moins luxueux, parfois en argent, parfois en or. On n'en a pas en or, je vous rassure. Et donc c'est toujours très très beau. Et parfois, vers la fin des daguerréotypes, elles sont parfois colorées, légèrement colorées. À la peinture, bien sûr, par-dessus, là, parce qu'on ne fait pas de photos en couleur. Hein, quoi. Ça, c'est le daguerréotype. Une version de la photographie sur argent, en utilisant l'argent, donc de la photographie, mais sur du verre et non plus sur une plaque d'argent, une plaque de cuivre argenté. C'est sur du verre qui va être argenté. Donc déjà, le support en verre, beaucoup plus simple. Il est parfaitement transparent et on le mélange à du collodion. Ensuite, on racle d'ailleurs, il y a de la gélatine. D'ailleurs, pas besoin de racler, il suffit de mettre sous le robinet très très chaud et la gélatine se fond tout de suite puisqu'elle fond à 30 degrés. Et cette image négative, elle va apparaître avec le collodion, elle va apparaître en positif si on la met sur un fond noir. L'image, au lieu de la mettre sur un fond, si vous la mettez sur un fond blanc, elle est négative, c'est un négatif, c'est exactement comme quand vous la regardez à la lumière, et si vous la mettez sur un fond noir, elle devient positive. Positive, mais le noir, mais le blanc ne sont pas des blancs, sont des gris. Pour ça, vous verrez, les visages des gens ne sont pas blancs, ils sont gris. Gris, puisque le fond est noir. Donc, une légère transparence, le noir et cette transparence donnent un gris, mais ne donnent pas vraiment du blanc pur. Donc ça devient, ensuite on va inventer la même chose sur des plaques de fer, de moins en moins cher, sur du fer tout simplement. On étale un petit peu la même chose sur du fer qui est passé au noir de fumée, tout simplement, pour avoir un fond noir. Et l'image va apparaître donc en positif directement sur des petites plaques de fer. Ça se fait dans les foires, ça se pratique de façon un peu plus populaire. Et vous verrez que c'est grâce au portrait, dans les foires, ben les gens ils se font tirer le portrait, que la photographie va devenir célèbre, il va prendre cet essor. C'est à cause du portrait que la photographie va se développer. Pas du tout à cause des paysages ou des reportages ou autre. Encore que les premières photographies de reportages de guerre en Crimée, tout à fait au début, ça a aussi contribué au développement d'une autre forme de photographie au service de l'actualité, au service de l'information, au service de la connaissance. Mais au départ, ce sont les portraits. Je vous laisse quelques minutes dans cette salle. Donc de ce côté-ci, vous allez voir des appareils d'Arthur Battu de projection, puisqu'il fait des conférences, il ne se contente pas de travailler, mais il communique son savoir. Et tout ça dans l'esprit du 19e siècle, c'est-à-dire un esprit de très curieux. Enfin, tout le monde n'est peut-être pas comme ça au 19e siècle, mais les gens sont. Les chercheurs cherchent dans tous les domaines. Battu faisait de la poudre pour faire fonctionner un canon. Il avait un canon en bois. Qui était cerclé, oui, en bois, mais il était quand même cerclé, là, tous les 30 cm, il y a un cercle d'acier. Il fabriquait sa poudre et chaque année, pour l'anniversaire de ses enfants, on mettait l'obus en bois, tourné chez le menuisier du coin, un petit obus d'une vingtaine de centimètres, et on faisait péter l'obus, le canon, pour l'anniversaire de ses enfants chaque année. Déjà des photos aériennes par là aussi pendant la guerre de 14, ça fera l'objet de notre commentaire dans la partie à côté sur la photographie aérienne, puisque vous avez tous entendu parler de la photographie aérienne de Arthur Battu. Vous allez voir, c'est très peu. Un résumé de la photographie aérienne sur 20 000 images que nous avons d'Arthur Battu, c'est on a 80 photos aériennes, c'est tout. Tout le reste n'est pas de la photo aérienne. C'est pour ça qu'il a été connu, mais en fait c'est minime dans son travail. Et à partir du moment où ça a fonctionné, il est passé à autre chose. Alors que le portrait, toute sa vie, il a continué à travailler sur le portrait et il n'a pas fini de travailler.
C'est surtout, il faut bien comprendre qu'à l'époque, en fait, le nombre d'azas était peu conséquent. Ça devait faire quoi?
Les poses, oui, c'est
moins de 12 d'azas.
16, ouais.
Oui, 12, voilà, on ne sait rien. Mais donc, alors, rendez compte, quand je disais, les optiques n'ouvraient pas beaucoup. Pour revenir à l'optique.
Donc, c'était les temps de pose très longs.
Très longs, alors, comme ça venait, il fallait vraiment que ça soit par beau temps. Hein.
Oui, puis, hein? Et les portraits, il y a des repose-têtes. Et oui, vous allez voir ces petites filles à un endroit, elles sont très calées, appuyées comme ça sur ce qu'on nous a toujours interdit de tenir la tête à l'école.
Mmh. Oui. Et là, okay. Sur
sur la photo, elles sont comme ça, pour pouvoir, pour ne pas bouger, en fait.
Ce que l'on voit au plafond, là-bas, c'est la structure d'un cerf-volant.
C'est le cerf-volant, c'est le cerf-volant.
D'accord, et c'est avec ça qu'il faisait ses photos aériennes.
C'est avec ça qu'il faisait les photos aériennes. Bon, il y avait une toile, hein.
Oui, je pense.
Ça, pour voler, il faut un ouragan. Très doux, c'est un soufflet, donc il peut bouger. C'est impensable d'utiliser ça dans un cerf-volant. Et surtout, les premières photographies, les négatifs sont très peu sensibles et les poses sont de plusieurs minutes. Dans un cerf-volant, plusieurs minutes,
il ne faut pas rêver.
Non. Déjà, quand on fait une photo, si on bouge un peu, c'est flou. Alors imaginez dans un cerf-volant qui n'arrête pas de faire ça. Ça peut être très intéressant au point de vue artistique, mais pas beaucoup au point de vue relevé topographique. Et donc, avant 1887, c'est pas possible, même si quelqu'un y a pensé, c'est pas possible pour la bonne raison que Bennett, en Angleterre, va inventer des plaques au gélatino-bromure d'argent, où l'argent va devenir considérablement plus sensible à la lumière. Donc il ne s'agit plus de plusieurs secondes, mais il s'agit d'une fraction de seconde. C'est-à-dire, c'est à partir de là que naît le fameux terme clic-clac de Kodak. Là, hein. Clic-clac, ça veut dire clic-clac, vous voyez le temps qui se passe entre les deux, pas grand-chose, une fraction de seconde. Et là, il fallait que ce soit vraiment clic-clac, hein. C'était encore plus rapide. Et à partir du moment où on a des plaques au gélatino-bromure, mises au point en Angleterre par Bennett, donc, on va pouvoir faire des instantanés, puisque c'est quasi un instantané. Et en cerf-volant, bien entendu, il faut une obturation les plus rapides possibles. Donc, il construit une chambre noire, des arêtes de bois, le tout recouvert de carton. Ce n'est que du carton, si j'appuie, je passe à travers. Toutes les faces. La face arrière, il a introduit sa plaque de verre, bien entendu, son négatif, à ce format pour cet appareil. Mais vous allez voir différents types d'appareils dans les vitrines. Il y a des formats beaucoup plus grands. Il y a des 13-18, 18-24. Et ensuite, il faut trouver un obturateur, ben parce que qui va appuyer là-dessus? Comment ça va marcher? Donc, il faut que ça rentre une fraction de seconde. Donc, avant de découvrir un peu son matériel, il y a toutes sortes d'idées qui circulaient. Un grand fil de 200 mètres de long qu'on tirait comme ça, sans compter qu'avant que le mouvement arrive là-haut, il s'était passé 3 secondes. Et ensuite, le grand coup de fil, l'appareil à ce moment-là risquait tout simplement de bouger, ce qu'il ne fallait pas. Donc, il va inventer un système d'obturation automatique qui est vraiment tout bête, en utilisant une mèche d'amadou qui va brûler un fil. Et ce fil retient cet élastique qui est ici. Alors l'obturateur s'appelle un obturateur à guillotine. Vous allez voir pourquoi. Hein. Ça ressemble, si vous mettez votre doigt dedans, c'est une guillotine. Donc l'obturateur est fermé. Il va passer par un stade d'ouverture. Et ensuite, il va se refermer. Voilà. Mais alors, comment est-ce qu'on obture tout ça? Comment est-ce que ça va fonctionner? Ça va fonctionner... Voilà, comme ça. Le petit loqueteau qui est en bois ici empêche la planchette mobile de bouger. Vous voyez que l'élastique est tendu, il demande qu'à pousser là. Mais c'est moi qui la tiens avec mon doigt là. Mon doigt est remplacé par un fil qui est attaché à ce clou là, c'est attaché comme ça. Un petit fil à coudre et voilà, là c'est bloqué, ça ne peut pas faire de photo. Il suffit de faire passer ce petit fil à coudre entre les deux là, dans une mèche d'amadou. Mettre le feu à la mèche d'amadou qui va se consumer lentement et quand elle va arriver au fil, ça casse le fil et à ce moment-là, voilà. Alors ce qui a rendu intéressant son travail sur le portrait, qui est un aspect tout à fait particulier, c'est son travail sur le portrait type, où toujours dans le domaine du portrait, il va imaginer faire des portraits individuels d'une population déterminée, dans un village, dans une zone déterminée, par exemple avec la population de La Bruguière, où il va photographier 50 individus, les uns après les autres, rigoureusement de face, les yeux bien horizontaux, bien face à l'objectif. Il va développer ses photos, ses 50 portraits, et ensuite il va les refotographier, parce que c'est plus facile de photographier 50 cartes postales de portrait que 50 personnes, où la lumière peut changer, ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus délicat et difficile à réaliser. Une fois qu'il a ses portraits collés sur ses cartons, il va donc les refotographier en divisant le temps de pose par le nombre de sujets. Par exemple, s'il faut, pour reproduire à l'époque, il faut du temps. Imaginons qu'il faille 50 secondes pour reproduire une photographie. Il faut du temps, les pellicules ne sont pas très sensibles. Donc, il va photographier le premier sujet, une seconde, mais sans changer son négatif, sa plaque de verre. Il va continuer à photographier rigoureusement sur la même plaque les 50 sujets
pendant une seconde chacun. Ce qui fait qu'à la fin de la pause totale, il aura bien une pause de 50 secondes. Mais l'image sera formée d'un cinquantième de chacun, donc de 50 cinquantièmes de chaque portrait. Donc l'image va être parfaitement exposée et elle va être une image composite à partir de ces 50 sujets. Alors sur l'étude de la Bruyère, il utilise le portrait de 50 personnes, donc à partir de, en gros, c'est pas tout à fait la moitié, mais moitié homme, moitié femme. Donc il obtient un portrait type, ce qu'il appelle le portrait type, c'est une image composite, de 50 Labruyérois, où chacun n'a donné qu'un cinquantième de la photographie. Batute explique de son côté que l'image composite, le portrait type, est toujours plus beau que les éléments qui ont servi à le former, forcément puisqu'il a enlevé toutes les imperfections individuelles. Donc l'image type est toujours plus belle et plus douce que les individus qui ont servi à la former. Donc c'est particulièrement le cas sur le portrait type de l'Arlésienne ou de la Gatoise, où les images composites sont toujours beaucoup plus belles que les individus eux-mêmes. Son but plutôt est de montrer que la photographie peut être, toujours dans le domaine de la recherche de la photographie, peut être un bon moyen de retrouver l'idéal de l'esthétique d'une population donnée. C'est uniquement un but esthétique et non anthropologique comme ça va déborder par la suite. Hein. Il va y avoir par la suite des extrapolations fâcheuses. C'est le terme qu'il existe, qui ont été faites, à savoir, on fait le portrait type des médecins de Boston, on publie le portrait type dans la presse en disant « si vos enfants ressemblent à cette image, ce seront de bons chirurgiens ». Donc, bien entendu, Batute s'élève tout à fait en expliquant que son système, son procédé, convient pour mettre en évidence des analogies physiques. On va trouver des analogies physiques sur les médecins de Boston, mais en aucun cas des analogies intellectuelles, en tout cas une prédisposition à être médecin. Parce qu'avoir une bonne gueule, ça ne suffit pas pour être un bon chirurgien. Il faut aussi aller à la fac, faire des études, passer des examens, etc. etc.
Et en Italie aussi, non ?
Alors en Italie, une autre application, oui, effectivement, a été faite par le criminaliste Lombroso, qui, lui, a une autre idée un peu similaire, bien pire peut-être. Il va photographier tous les criminels dans les prisons, tous les condamnés à mort en Italie, produire un portrait type, hein, par superposition, selon la technique de Batute, et expliquer que si on connaît des gens qui ont cette tête, ce sont des futurs criminels, et que donc il faut, sinon les arrêter, en tout cas les surveiller de près et avoir l'œil dessus, voir les exécuter avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Ça, c'est encore un autre problème, mais je veux dire, c'est complètement détourné de ce que Batute propose au départ, de son idée de retrouver un idéal esthétique d'une population.
Bonjour, Didier Arquet, je suis le président de l'espace photographique Arthur Batute à la Bruyère, président bénévole, comme dans toutes les associations. Par ailleurs, je dirige le Conservatoire de musique et de danse du Tarn. Une association qui est composée d'une trentaine d'adhérents. Hein, pendant très longtemps, c'est Serge qui a porté l'association à bout de bras, hein, jusqu'à ces derniers temps. Là maintenant, on essaie avec le déménagement, l'installation au cœur du rond-point, un autre fonctionnement, hein, et parce que lui, il a beaucoup donné, il faut qu'il prenne du recul, il a envie de prendre un peu de recul, hein, même si vous avez pu constater qu'il est toujours aussi passionné, intéressé et ravi d'être là.
L'espace, c'est donc ce qui concerne Arthur Batute, mais c'est aussi des expositions temporaires, et cette programmation, la programmation des expositions, comment elle se fait ?
Voilà, donc, il y a deux choses. D'une part, hein, dans toute la programmation, on souhaite qu'elle soit, d'une part, en résonance autant que possible avec ce qui se passe globalement dans le rond-point, hein, notamment avec la salle de spectacle et le cinéma, hein, qui est en résonance avec cela, et aussi en résonance avec les valeurs que porte l'association, qui sont liées à la personnalité d'Arthur Batute, un humaniste, hein, qui était aussi intéressé par tout ce qui est technique, et aussi par l'artistique, hein, donc ces valeurs-là. Que nous essayons de mettre dans la programmation. Alors pour nous aider là, il y a aussi, on est beaucoup sollicité. Hein, des photographes en France qui ont envie d'exposer, il y en a des dizaines et des dizaines. Après, pour nous, pour faire un choix le plus pertinent possible, hein, en relation avec les valeurs que je vous citais tout à l'heure, on va s'appuyer sur un comité technique et artistique qui sera composé notamment de représentants de l'État, hein, de la DRAC, du service des musées de la DRAC, de la région, du département, on l'a vu tout à l'heure, que les archives étaient partie prenante, et la conservation départementale, et d'artistes aussi, de photographes qui vont nous aider à ce comité, qui, les bénévoles, le conseil d'administration de l'association va réfléchir, collecter et imaginer la possibilité d'accueillir par exemple 10 expositions, et sur ces 10 expositions, ce comité-là, de professionnels, de gens qui connaissent les réseaux, qui ont eu un recul, une expérience, nous donnerons un avis, nous conseillerons d'en prendre 4 ou 5 et ensuite nous déciderons. Un des points importants, c'est le travail d'éducation artistique que l'on va faire avec le public scolaire. Voilà. On est en train de mettre au point des modules pour les collèges, soit pour les écoles élémentaires. Et chaque fois qu'un artiste va venir aussi, il rencontrera
c'est super. Le public scolaire. Voilà.
Alors actuellement dans la galerie il y a une exposition qui part un petit peu du portrait type, des manipulations de l'image, comment on va manipuler l'image, comment on va créer l'identité à partir de la photographie, puisque c'est grâce à la photographie que naît l'identité. Jusqu'à la photographie on décrit les gens en fonction de corporations, la photographie va permettre de donner une image objective, c'est-à-dire vraiment on voit si c'est une personne qui est grande, qui a des yeux en amande ou pas, on a vraiment une image objective de cette identité, et l'identité va apparaître grâce au portrait photographique. Alors l'identité qui va être utilisée par des médecins pour essayer de retrouver la tête des gens qui ont des problèmes psychiatriques, la tête de gens, Galton en Angleterre fait la tête des gens qui sont des phtisiques, des gens qui ont la tuberculose. Ensuite, la police va s'emparer de ça pour faire le portrait anthropométrique, on va faire des fiches anthropométriques avec un portrait de face et de profil qui va donner la personnalité propre d'un individu. Tout ça sont des images qui vont servir à la médecine, à la police, des images qui vont être modifiées, des images qui ne sont pas modifiées, qui sont la réalité, mais qui sont également des images de gens qui ont été modifiés. Je veux parler de la déformation crânienne de la Montagne Noire, où volontairement, Batut va le photographier, peu, mais d'autres vont s'y intéresser, notamment le professeur Topinard à Paris, où on va photographier des gens qui ont des déformations crâniennes. Cette déformation est obtenue en serrant très fortement le crâne des enfants dès leur plus jeune âge, et en gardant ça plusieurs années, on obtient des crânes très allongés en forme de melon, et dans un but esthétique, prophylactique, on ne sait pas trop pour quelle raison c'était fait, mais ça se voit dès qu'on a des cadavres, c'est évident. Dans cette vitrine-là, c'est complètement évident, puisqu'il y a plus de 5 cm d'un crâne à l'autre. Alors c'est un travail sur le portrait à travers les âges, puisque je vous dis, donc le portrait sert à la création de l'identité, et c'est un petit peu dans ce style là dans les manipulations de l'image que des images de Batut sont actuellement proposées au Metropolitan Museum à New York sur une exposition qui s'appelle Faking It, qui est une présentation de la photographie et des manipulations photographiques avant les techniques actuelles, notamment celles de Photoshop, qui permettent toutes les manipulations qu'on veut. Et on manipule des images donc bien avant l'informatique, dès les débuts de la photographie. On a toujours manipulé des images. D'ailleurs, on a la preuve là, Batut est un des précurseurs de la photographie. Et il manipule en quelque sorte des images, puisqu'il arrive à produire des visages et des personnes qui n'existent pas. Ce sont comme des chimères, mais n'empêche qu'elles ont une réalité photographique, sinon, faute d'avoir une réalité matérielle, puisque bien entendu, ces êtres sont complètement imaginaires, ne sont possibles que grâce à la photographie, mais n'existent bien entendu pas. What? Alors, les toutes dernières actualités de mon travail photographique, c'est la remise à l'état de mon labo photo, un peu petit peu particulier, puisque je fais du moyen format. Ce sont des images faites au stélopé que je tire sur du papier spécial que je prépare moi-même, une émulsion au platine, ce sont des tirages au platine. Donc. Alors, le stélopé, c'est de la photographie sans objectif, c'est une chambre noire avec un film à l'arrière, grand format, et surtout il n'y a pas d'objectif, c'est juste un tout petit trou, donc ça laisse le temps à la lumière, ça laisse du temps au temps, ce qui est l'inverse de la photographie aujourd'hui, puisqu'on a des appareils qui arrivent à faire jusqu'à 24 images par seconde, c'est plus de la photo, c'est du cinéma, et après on choisit la meilleure, là c'est le contraire, on fait une seule photo, mais on prépare soigneusement son plan, sa distance, sa lumière, sa position, des heures s'il faut, et ensuite on fait une seule image, et cette image est toujours réussie, j'allais dire très réussie, et ensuite à partir de là je fais des tirages au platine. Ça c'est l'actualité immédiate de ma photographie, c'est-à-dire à l'heure où on achète des appareils électroniques de plus en plus chers, moi j'ai une boîte faite avec 4 morceaux de contreplaqué, un petit trou dans une tôle faite avec une aiguille à coudre, et voilà mon matériel. C'est donc quelque part un certain luxe de faire de la photographie qui peut durer des pauses qui vont de 3, 4, 5 minutes à 10, 15, 20 heures de pause. Ou dans une pause de 20 heures, dans une pièce noire avec quasiment pas de lumière, et sur un compotier de fruits, le compotier va être parfaitement net, mais on va voir se ratatiner, c'est le mot, les fruits qui sont à l'intérieur, puisqu'en 20 heures, avec l'humidité de la pièce, et s'ils viennent d'une autre pièce, ils vont se ratatiner, ils vont se flétrir et changer de position. Donc tout est parfaitement net, c'est très très net, puisque c'est l'avantage du stélopé, mais les fruits ne sont pas nets, parce qu'ils ont bougé. Sur 20 heures, ils n'ont pas arrêté de bouger.
Et ça, c'est une de vos photos ?
Ça, c'est une de mes photos, bien sûr. Je fais beaucoup de compositions de nature morte. L'intérêt du stélopé, c'est de se glisser dans des zones, dans des endroits. On a une profondeur de champ infinie, donc on peut mettre ça au marché, au milieu d'un cajou de tomates. Et donc on va avoir des flous, des gens qui passent, mais on va avoir le cajou et les tomates parfaitement nettes. On va avoir des images qui sont quasi impossibles à faire autrement. C'est un petit peu comme le cerveau là, en fait. On a des images qui sont impossibles à faire d'une autre façon. L'échelle des pompiers est pas assez haute, l'avion est trop haut, l'hélicoptère trop bruyant et trop haut aussi. Donc on a vraiment un créneau original et des moyens pour se mettre au service de la création photographique, tout simplement de la véritable écriture photographique, puisque c'est le terme même et le sens même du terme photographie, c'est l'art d'écrire avec la lumière.
Nous vous rappelons que, outre sa collection permanente concernant l'histoire de la photographie et Arthur Battu, l'espace accueille des expositions temporaires. Il est situé au sein de l'espace culturel du Rond-Point à La Bruyère. Pour toutes les informations pratiques et de plus amples détails, vous pouvez vous rendre sur le site www.espacebattutoutattaché.fr. Sur le site de Radium, à l'émission La Boîte à Musée, vous trouverez toutes ces informations et la possibilité de podcaster l'émission.